Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition de votre podcast 100% consacré à la Formule 1. Et alors on piaffe d'impatience avec Stéphane Vrignot parce qu'on reçoit un totem de la Formule 1 française, un nom exceptionnel, synonyme de spectacle, d'engagement,
panache,
de générosité,
passion,
de panache.
Et Jean Lézy, il parle toujours la main sur le cœur, ça c'est vraiment extraordinaire, on a eu la chance de le suivre. À son arrivée en Formule 1,
oui, parce qu'on
notre privilège de l'âge.
On n'a plus tout à fait 20 ans.
Et c'est, voilà, il a porté la Formule 1 à un autre niveau.
Exactement. Donc on ne perd pas de temps. On va prendre la direction du circuit Paul Ricard, dont il a été nommé président, et où il va donc se connecter avec nous. On passe un moment avec Jean Alési. On va parler de la Formule 1 d'aujourd'hui. On va évidemment parler de sa carrière, parce que Jean Alési a été le contemporain de Ayrton Senna, de Michael Schumacher, d'Alain Prost également. Bref, c'est un, je disais un totem, c'est vraiment le mot le plus adapté peut-être au personnage. Jean, allez-y, on se connecte, direction le Paul Ricard. Bonjour Jean, merci beaucoup de recevoir les fous du volant sur le circuit Paul Ricard. On est très heureux, presque un petit peu intimidé, on va le dire, de vous recevoir et de vous faire rentrer dans le club des fous du volant. Merci beaucoup.
Merci à vous. J'espère qu'on va passer une bonne demi-heure.
Vous allez voir, normalement, on ne s'ennuie pas. Alors, vous êtes au circuit Paul Ricard. On va commencer dans le vif du sujet. Vous avez été désigné président du circuit Paul Ricard il y a quelques mois. Hein. C'est quand même encore assez récent. C'est quoi votre mission au Paul Ricard? Ramener la Formule 1 sur le circuit?
Alors, c'est, disons que c'est une question qu'on me pose évidemment en premier, hein, comme vous d'ailleurs. Et il faut savoir que la Formule 1 aujourd'hui et la France avec la Formule 1, c'est quelque chose qui est très ouvert parce que on fait partie géographiquement d'un site qui plaît à la F1, puisque même si on n'a pas le Grand Prix cette année, on a encore au programme une quinzaine de journées de tests avec Pirelli, puisqu'ils viennent rouler, ils ont pris notre circuit ici pour rouler sur le sec et sous la pluie, puisque nous avons un système d'arrosage pour leur faire tester leurs pneus pluie, donc sous le soleil. Donc, c'est encore un circuit qui plaît. Par contre, nationalement parlant, on a toujours des difficultés. Il faut savoir que l'AF1 aujourd'hui, c'est 32 pays qui demandent l'accès à avoir un Grand Prix sur leur territoire. Il n'y a que 23 Grands Prix. Donc, ils sont obligés de dire non à des gens qui sont presque à genoux devant l'AF1 en disant « s'il vous plaît, venez, on vous accueille bras ouverts ». Ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. On a eu les 5 dernières années le Grand Prix, à part l'année Covid, bien sûr, mais on a eu un Grand Prix qui a eu beaucoup de succès, mais qui a été boudé par nos politiciens. Bon, je ne parle pas de ceux de la région, parce que c'est grâce à eux que l'AF1 a pu revenir. Mais de ne pas avoir un président aujourd'hui sur une grille de Formule 1, c'est mal vu. Et c'est normal parce que quand vous allez dans n'importe quel Grand Prix, si vous n'avez pas le roi, si vous n'avez pas le Premier ministre, si vous n'avez pas le président, ça cloche. Donc tout le monde utilise l'AF1 vraiment pour véhiculer l'image de la course automobile. dans son pays.
Ce que vous nous dites, c'est que ça n'est pas qu'une question d'argent. Il y a quelque part aussi un petit peu d'égard, montrer qu'on a envie d'avoir ce spectacle.
Évidemment, évidemment. C'est pas un problème d'argent aujourd'hui. Comme je vous ai dit, la logistique aussi de la F1, c'est de trouver des circuits qui peuvent accueillir la F1 sans que ça devienne des zigzags sur la planète pour aller d'un pays à l'autre. Quand vous allez à Barcelone, quand vous allez en Autriche, quand vous allez à Monza, quand vous allez à Imola, vous êtes sur le passage. Ça leur ferait tellement plaisir de pouvoir faire un Barcelone-France-Autriche ou Monaco, ou dans l'autre sens. Enfin, oui. Logistiquement parlant, ça serait très, très agréable aussi pour les teams.
Il faut combien aujourd'hui pour organiser un Grand Prix? Je parle du prix du plateau ou le prize money. Les circuits que vous citez sont autour de 25 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est la caution qu'il faut, l'argent qu'il faut apporter aux promoteurs du championnat du monde pour avoir une date au calendrier. Puis après, on se débrouille entre guillemets, entre subventions et sponsoring pour, et puis évidemment le prix des places pour avoir un retour sur investissement. Mais effectivement, vous le dites, c'est pas exactement un problème d'argent. Je pense le prix du plateau à peu près du Grand Prix de France a tourné autour de 24 millions de dollars. Dites-moi si je me trompe dans des grandes proportions, mais c'est pas une question d'argent effectivement. Mais est-ce que le Castellet doit alors évoluer? Est-ce que c'est toujours un outil qui peut recevoir un grand prix sur la question de le défi de la mobilité?
Alors, bon, déjà, on va pas parler dans notre podcast d'argent parce que ça ne veut rien dire le prix du plateau dans la mesure où ça dépend si... c'est un grand prix, c'est un peu à la carte. Est-ce que vous donnez tout à la F1? Est-ce que vous gardez des postes pour faire travailler justement les gens de la région? Donc c'est modulable. Donc le problème vraiment, et là moi je suis très bien placé pour en parler parce que je suis quand même aussi avec 5 autres pilotes puisqu'on est 6 ambassadeurs F1, donc je suis en contact permanent et constant avec Stefano Dominicali. Le problème il n'est pas financier, le problème il est justement d'avoir un respect comme dans les autres pays, de dire voilà, on a la F1, on est fier d'avoir la F1, on veut faire passer la patrouille de France, on n'a pas des plaintes que la fumée fait de pollue, donc du coup on n'a pas la patrouille de France, alors que vous allez en Italie, vous avez les frais tricolores, c'est ce genre de choses le problème numéro un. Par contre, faire évoluer le circuit, à quel niveau? Je n'ai pas compris.
Au niveau de la jauge, accueillir plus de spectateurs, est-ce qu'on n'a pas atteint une limite? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour le rendre plus convivial, accessible?
Oui. Alors justement, ça, c'est un problème qu'on a, qu'on essaye de régler le plus, disons, efficacement possible. Mais le dernier Grand Prix qu'on a eu, ça s'est hyper bien placé. Les quatre Grands Prix qui ont été organisés, quatre fois, il y a eu un grand travail sur la mobilité changeant, parce que la première année, ça a été un désastre total. Mais pourquoi? Parce que il y a eu un peu de panique, il y a eu un peu de, je dirais, de fatalisme et un peu de maladresse. Donc tout ça mis ensemble et de la grande popularité, parce qu'il y a des gens qui étaient sur l'autoroute dans des bouchons, ils ont entendu à la radio le Grand Prix alors qu'ils avaient le ticket dans la main. Ça, c'est des choses que on a vraiment compris et on travaille le plus possible pour que ça n'arrive plus.
Et 2022 a été un modèle d'organisation quand même. Hein. Clairement, c'était extraordinaire. C'était vraiment génial. Ça a été salué par tout le monde. Et c'est ce qu'on espère qui va donner un élan pour revoir la F1 au Castellet.
C'est ce que j'allais dire. Pour conclure le message sur ce sujet, on a plein d'autres questions à vous poser, mais vous rassurez-nous, on peut imaginer, on peut espérer revoir la F1 au Paul Ricard.
Ah oui, bien sûr. Qui plus est, aujourd'hui, avec cet engouement puisqu'on voit les derniers Grands Prix, on voit les 350 000 spectateurs, 450 000 spectateurs, c'est des records qui sont battus. Donc, peut-être aussi qu'en Europe, il va y avoir une nouvelle façon de voir la F1, c'est-à-dire on risque d'avoir en alternance un pays avec un autre. Donc, ça va aider aussi pour faire respirer, parce que bon, un plateau, ça coûte quand même de l'argent.
Ouais.
Et peut-être un spa ou un Grand Prix d'Autriche va
alterner.
Alterner avec nous.
Ok. Merci.
Tout est sur la table.
Merci pour ce sujet. On voulait justement avoir votre avis aussi sur la F1 d'aujourd'hui, l'évolution de cette discipline. Avec le dernier exemple en date, c'était en Australie. Vous nous parliez de vos relations avec Stefano Domenicali. Est-ce qu'il vous arrive d'échanger avec Stefano Domenicali sur l'évolution de la Formule 1 ? On sent bien qu'on a envie de donner de plus en plus de spectacles qui... ce qui, dans l'idée, est plutôt bien. La trois drapeaux rouges en Australie, un Grand Prix qui, finalement, sportivement, a donné quand même quelques regrets. Quelle est votre vision sur cette évolution de la discipline ?
Alors, moi, je suis... j'ai été fan de F1 tout petit. Je me suis régalé parce que j'ai pu faire le pilote de Formule 1. Et puis encore, maintenant, là, du coup, c'est un peu comme la vie, hein. Quand on vieillit, on redevient enfant. Donc, je suis un vrai fan et j'adore la F1. Ce qui s'est passé en Australie, pour moi, c'est la F1 moderne. C'est-à-dire, c'est une Formule 1 qui est réglée avec des règles et y a des lois. Donc, il faut pas... les quelques personnes qui m'ont dit « Ouais, on est resté un peu sur notre fin », là, je ne comprends plus, parce que qu'on reste sur notre fin quand il reste 5 ou 10 tours et qu'on dit « c'est bon, ça suffit, rentrer à la maison », là, tout le monde dit « Mais pourquoi ils n'ont pas relancé la course ?» Melbourne, je connais très bien, hein, j'ai fait quelques Grands Prix là-bas. C'est, vous faites avec des voitures qui sont maintenant lourdes en plus, des missiles, vous êtes entre les murs, vous n'avez pas droit à ce qui est une catastrophe. Et la catastrophe, elle a été effleurée plusieurs fois, hein, dans le passé. Il y a même eu, malheureusement, un spectateur qui avait été tué, un commissaire à mon époque, voilà, qui avait été tué avec une roue qui avait volé. Donc, les graviers qui ont été jetés sur la piste, absolument, il fallait mettre un drapeau rouge. Une voiture qui est dans une mauvaise posture, oui, il fallait mettre un drapeau rouge. Après, moi qui suis, comme je vous dis, un super fan, je suis devant la télé, je me dis, j'espère qu'ils ne vont pas faire un rolling start, parce que vous faites un rolling start, c'est un spectacle en moins. Donc, aujourd'hui, franchement, ils ont géré ça d'une manière parfaite.
On voulait avoir aussi votre avis sur les vedettes de la Formule 1 actuelle. On va vous demander votre avis sur d'abord le double champion du monde, Max Verstappen. Est-ce que c'est, selon vous, vraiment la pépite, l'artiste du pilotage qu'on nous présente, ou est-ce que vous avez une version plus nuancée ? J'aimerais bien avoir votre avis, parce que je sais que vous êtes un vrai adepte du pilotage.
Oui, alors c'est sûr que c'est un pilote qui transmet l'émotion à travers le petit écran, ou si vous êtes spectateur, il a une façon de conduire qui on sent l'attaque, quoi. Mais il n'est pas seul. Vous avez des garçons comme Charles Leclerc qui, aujourd'hui, ne conduit pas une voiture au niveau de son talent et de la Red Bull. Donc, en fait, quand vous avez un garçon comme Max Verstappen, qui aujourd'hui est assez abouti professionnellement parlant, mais qui a grandi avec Adrian Newey comme, magicien à ses côtés, plus une équipe qui tourne comme du papier à musique, c'est obligé qu'il y a de l'euphorie et ça vous met encore plus en évidence sur votre talent, quoi.
Il n'est pas seul, en gros, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est qu'il y a, il y a un talent, mais il y a autour quelque chose. Bah justement, vous avez évoqué spontanément Charles Leclerc. On a le sentiment que c'est un petit peu l'alter ego, celui qui pourrait contester la suprématie de Max Verstappen.
Alors, avec une question subsidiaire, je dirais, que j'ajoute, faut-il nommer en fait Charles Leclerc pilote numéro 1, mettre tout sur Charles Leclerc pour atteindre cet objectif? Parce que la Scuderia s'est un petit peu dispersée l'année dernière. Il y a eu quelques épisodes douloureux. Et ça, ça donnerait au moins une lecture claire de la stratégie de Ferrari.
Alors oui, mais ce n'est pas le problème. Le problème chez Ferrari, c'est, admettons que le prochain Grand Prix, on dit, voilà, on annonce à la couleur, on dit Charles, tu es le premier pilote et Carlos deuxième. Ça n'aiderait rien dans le process pour faire évoluer la voiture, mais surtout le niveau aujourd'hui de manque de performance et de manque de fiabilité que s'est présenté la Scuderia en 2023. Donc, ce n'est pas le sujet, franchement.
Le troisième pilote dont on voulait avoir votre avis, parce qu'on ne va pas faire toute la grille quand même, c'est Lewis Hamilton, détenteur du nombre du plus grand nombre de victoires en Grand Prix. Quel regard vous avez sur ce parcours qui commence à être d'une longévité assez exceptionnelle, un peu comme le vôtre qui a été aussi très très long?
Alors, ce qu'il y a de moi, ce qui m'étonne le plus chez Lewis, c'est qu'en fait, évidemment, on le voit avec Fernando Alonso. Quand vous avez des pilotes d'exception comme donc Fernando et Lewis, vous pouvez dire, ils peuvent dire ouais j'en ai marre. Surtout que Lewis c'est le quand même, j'ai vu récemment que c'est le pilote qui a fait le plus de tours en tête d'un Grand Prix depuis que la F1 existe. Donc il pourrait être lassé parce qu'il a une voiture lui aussi qui est pas vraiment au niveau. Il a un nouveau coéquipier qui est un jeune exceptionnel. Donc, les deux choses mises ensemble, ça pourrait l'inciter à dire « Ouais, bon, c'est bon, j'en ai assez fait, j'arrête. » Mais on dirait que ça les motive encore plus. Donc, de voir aujourd'hui en piste un Lewis, un Fernando, c'est que du bonheur. Et c'est un bon mélange parce que le succès de la F1 aujourd'hui, c'est en grande partie les jeunes pilotes, mais il faut aussi quelques stars au milieu.
Et la question justement d'avoir la flamme, est-ce que Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est un sujet moi, je pense que s'il avait 8 titres de champion du monde, il pourrait se dire, bon, j'essaie d'en avoir avec Ferrari, mais ce qu'il veut d'abord, c'est avoir ce 8e titre avec Mercedes. Berger disait tous les bons pilotes sont attirés par Ferrari. Simplement, à l'époque, Senna ne voulait pas y aller parce qu'il se disait, je vais pas gagner. Est-ce que c'est un petit peu le cas aussi pour Lewis? Ou est-ce que c'est quand même un challenge que vous le voyez un petit peu relevé parce que c'est l'attraction ultime, Ferrari?
Alors, moi, je suis sûr qu'il doit y penser. Ça, c'est impossible que Lewis Hamilton, aujourd'hui, ne pense pas à dire, tiens, Carmen, il faudrait que je vois ce que c'est. Parce que c'est un mythe pour les pilotes, la Scuderia. Par contre, le problème aujourd'hui de la Scuderia, je change un petit peu le sujet, c'est la performance du matériel. Il faut qu'ils trouvent de la fiabilité, il faut qu'ils trouvent de la vitesse. Il faut qu'ils aient une voiture, comme l'année dernière. L'année dernière, ils avaient un missile, mais qui était très fragile, et une équipe qui était souvent en panique. Je veux dire, et c'est là qu'on se disait, merde, mais pourquoi on pointe pas tout sur Charles? Parce que il y avait des situations qui faisaient qu'on avait vraiment l'impression qu'ils sabotaient quelque part le résultat de Charles, alors que ce n'était pas du tout l'intention, mais ça partait en panique totale, quoi.
Il y a une nouvelle gouvernance justement cette année chez Ferrari, ça apporte une situation un petit peu différente. On fait beaucoup la comparaison entre Fred Vasseur, qui est un patron français, avec Jean Todt, que vous avez bien connu. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas tant d'analogie que ça. Parce que quand Jean Todt est arrivé, il y avait beaucoup de choses à reconstruire à la Scuderia Ferrari. Et là, Fred Vasseur dit, mais là, il y a tout pour bien faire. Faut simplement qu'on optimise et qu'on se mette au travail. Puis, vous parliez tout à l'heure de quelqu'un comme Adrian Newey, qui est vraiment un magicien de la technique. Est-ce qu'il manque pas aussi cette étincelle, ce talent pur qui pourrait changer la donne chez Ferrari?
Alors, ça va prendre du temps, hein. Mais le choix, il est bon. C'est-à-dire que Fred Vasseur, c'est le bon choix. Maintenant, si on les compare aux époques que j'ai connu, hein, de prendre toute une équipe, comme ça a été le cas chez Benetton, avec Ross Brawn, Rory Byrne, le chef mécano, ils ont pris un gros staff, Michael Schumacher, ils ont pris tout le monde et ils ont été chez Ferrari. Ça, c'est plus possible en F1. Aujourd'hui, en Formule 1, Adrian Newey déciderait d'aller chez Ferrari. Il serait opérationnel. Enfin, on verrait la Ferrari de Newey en 2025. Parce que il y a des contrats qui sont ce qu'on appelle le gardening.
Ah, donc, la clause de jardinage en français.
Voilà. Donc, ils ne peuvent pas tout lâcher et passer dans le cas inverse. Donc, ça va prendre du temps. Mais je pense que les personnes... Fred et Vasseur et la personne juste pour ce poste-là.
Alors justement, vous qui êtes un grand connaisseur de Ferrari, c'est quoi les premiers chantiers auxquels Fred Vasseur a dû s'attaquer, la feuille de route pour vous du nouveau patron français de chez Ferrari, c'est quoi?
Je pense que...
c'est pas simple.
Non, c'est pas parce que c'est l'ordre surtout. Et justement, quand je dis Fred Vasseur, c'est la bonne personne parce que c'est lui qui va justement prendre des décisions que une personne comme moi, avec mon émotion et tout, je prendrais différemment. Mais dans l'ordre, pour moi, ça serait fiabilité, performance et stabilité. Donc, les trois choses, il faut qu'il les mette dans l'ordre qu'il veut, mais c'est ce qu'il faut faire, quoi.
J'ajouterais peut-être la sérénité aussi, parce qu'il y a eu une campagne de presse qui laisse toujours des traces. Et on s'est dit, bah, Ferrari retombe un peu dans ses travers. On nous a parlé de clan Binotto, etc. Est-ce que Ferrari doit parler italien, ou est-ce que Ferrari doit continuer d'être international, une écurie ouverte? Parce que Fred Vasseur l'a expliqué, il y a les anciens, la garde de Binotto qui sont en place et qui ne trouvent pas exactement leur compte. Il faut que lui-même, Fred Vasseur, trouve sa place dans cette organisation et remette tout le monde dans la même direction. On a l'impression que c'est son premier chantier, finalement, c'est recréer de la cohésion.
Bon, il a un poste qui est il est numéro un. Hein. Donc, c'est un gros chantier parce que c'est énorme, Ferrari. Mais je pense qu'il y a tellement de passionnés dans cette usine et de magie aussi, que ça peut aussi l'aider beaucoup.
On avait envie aussi de voir un petit peu votre conception de la chose. Ferrari, ça fait toujours autant rêver, vous qui allez toujours aussi souvent sur les Grands Prix de Formule 1. On sait que vous collaborez aussi régulièrement avec nos confrères de Canal+. Est-ce que Ferrari, ça a toujours ce pouvoir d'attraction au fil des années, ou bien est-ce que l'ouverture, il y a de plus en plus de fans de Formule 1, bah ça estompe un petit peu l'attrait de Ferrari?
Non, Ferrari, c'est Ferrari, dans le sens où encore plus maintenant, quand on voit qu'aux États-Unis, il y a eu un gain de spectateurs monstrueux. Bon, il va y avoir Las Vegas. J'étais à Miami l'année dernière, c'était un défilé. Je pense qu'il y avait plus de Ferrari à Miami qu'à Maranello. tout le monde voulait avoir une Ferrari, tout le monde voulait avoir la casquette de Ferrari. C'est le glamour, c'est la légende, c'est un mélange de tout qui fait que quand ça marche, tout le monde est content. Quand ça ne marche pas, on est tous derrière eux, on les casse pas, en fait. On essaye de garder son calme, parce que bon, il y a des supporters qui, des fois, ils pètent vraiment les plombs, mais pas comme dans le football. Donc, du coup, on les pardonne rapidement, mais on demande beaucoup aussi.
Ferrari, c'est un désir pour tous les pilotes. Pour vous, ça a presque été un hasard. Si je regardais comment est-ce que vous en parliez, fin 89, vous dites « Mon objectif, c'est de piloter pour Ligier ». En 90, vous signez un contrat avec Williams, qui a été un broglio parce que, en fait, Frank Williams veut vous avoir sous le coude, mais c'est pour négocier avec Ayrton Senna, essayer de faire venir Ayrton Senna. Une fois qu'Ayrton Senna signe chez McLaren, il s'intéresse à Nigel Mansell. Bref, vous trouvez un accord heureux avec Ferrari et vous dites, de ce jour-là, j'ai oublié Williams, je n'ai plus pensé à ce que j'aurais pu faire avec cette écurie-là. Une carrière s'est faite de hasard. Vous avez passé 5 ans de difficultés où vous avez fait le tour de beaucoup de choses dans cette ambiance italienne. Vous n'avez pas un petit regret au fond de vous ?
Alors, j'ai vu que vous êtes allé dans les archives profondes. Hein.
Ah, Stéphane, oui. Stéphane est un très très grand connaisseur de la chose historique de la Formule 1. Même vous aurez du mal à le prendre à défaut.
Non, mais Ligier, ça nous aurait plu. Une écurie française, vous avez fait Prost après, mais il y a plusieurs choses. Les choses se bousculaient dans votre tête quand on est jeune pilote, quand on est désiré.
Et qu'on se retrouve chez Ferrari.
Non, mais alors, vous savez, j'ai une histoire que je vais vous raconter puisque vous avez bien su un peu ce qui s'est passé. En fait, mon histoire de pilote, elle démarre comment ? Mon père a un garage. Jean Ragnotti conduisait à l'époque pour le team de Simon Clark Racing, donc Edmond Simon. Et Ragnotti, à l'époque, chaque fois, une course sur deux, il faisait un tonneau, il cassait la voiture. Donc, du coup, je voyais, je devais avoir 5-6 ans, pas plus, hein, je voyais arriver. Une voiture de rallye cassée. Je voyais arriver Jean Ragnotti avec Simon expliquant oui, c'est passé comme ça. Et puis, j'avais cette passion. Je voyais des phares, des arceaux de sécurité, des pneus qui étaient plus gros que les autres. Je voulais faire le pilote à partir de ce moment-là, ouais, de voir des voitures. Ouais. J'ai 18 ans. À l'époque, il y avait la Coupe Renault 5, qui était un truc fantastique parce que ça vous permettait d'avoir, avec des primes d'arrivée, ça vous payait un peu vos courses. Donc, mon père, il m'achète une R5. J'ai mon camion et ma caravane au garage. Je m'occupe de tout ça. Mais en parallèle, pour continuer à monter, je fais le volant Elf. Et c'est là que tout démarre.
Oui, car.
Parce que je fais le volant Elf. Je suis dans les 5 finalistes. Le règlement à l'époque, c'était 5 tours chronométrés, 5 tours de chauffe, 5 tours de chauffe, 5 chronométrés, tête à queue éliminatoire. On passe tous. Et là, il y avait un jury, c'était magnifique. Hein, il y avait Patrick Tambay, il y avait Pironi, Prost, les légendes de la France, quoi. Et Monsieur Guiter, qui était le patron de chez Elf. Donc, on passe. Je fais le meilleur temps. Éric Bernard passe après moi. Dans ses 5 tours chronométrés, il fait un tête à queue. Donc, normalement, j'ai le volant. Bon, j'avais 18 ans, hein, donc je veux dire, j'en ai encore un peu les mains qui transpirent tellement, parce que c'est quelque chose qui m'a choqué pour toute ma carrière. Donc, du coup, ils nous refont passer Éric Bernard et moi. Éric va plus vite que moi. Il donne le volant à Éric Bernard. Donc là, mon père pète un peu les plombs parce qu'à l'époque c'était payant. Il dit à Guiter, vous êtes des voleurs, c'est pas comme ça qu'on fait et tout. Et Guiter, qui était le pape de l'époque, lui dit, écoutez, Éric Bernard chez Renault, Jean Alési chez Ferrari. Bon, moi,
c'était prémonitoire.
voilà. Donc, je prends mon père par le bras, je dis, papa, il faut partir et tout. Il dit, bon, on part, on va à la maison. Et entre le circuit et ma maison à Avignon, on a une discussion. Mon père, il me dit, écoute, je vais t'aider. Mais il faut que tu comprennes que c'est comme ça la vie. C'est-à-dire, il faut se battre pour y arriver. Et même si tu penses qu'il y a des règles, des fois, elles ne vont pas être appliquées comme ça a été le cas aujourd'hui. Et ça a été une telle leçon de vie, ce jour-là, que ça m'a motivé. J'ai dit, moi, je vais y arriver. Et donc, du coup, J'ai été champion de France d'F3. J'ai été champion de Formule 3000. Mon premier Grand Prix, si je l'ai fait avec une Tyrrell, j'ai fini quatrième.
Au Paul Ricard.
Ici, au Paul Ricard, oui, voilà. C'est ça. Donc, je finis quatrième. Je n'ai jamais ni essayé la voiture, ni rien. Mais c'était un feu que j'avais au fond de moi parce que je voulais y arriver. Et puis, à la fin 89, je suis élu par Autosport pilote de l'année. J'ai mon contrat Williams, qui est devenu un contrat plus une option qu'autre chose. Et donc, du coup, quand il est devenu option, je suis allé voir Ferrari. Enfin, Ferrari voulait me prendre. Ferrari me dit, voilà, nous, on te veut. Et là, je leur dis, écoutez, j'ai une option avec Williams. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, bon, on prend tout en charge et j'ai fini chez Ferrari.
Alors, moi, je vais vous expliquer, puisqu'on est dans la partie historique. Moi, j'ai le souvenir de ce Grand Prix de Phoenix en 1990, et vous l'avez forcément. Oui. Je crois que c'est... Alors, il y a cette quatrième place, effectivement, au Paul Ricard. J'ai envie de dire que moi, votre acte de naissance en Formule 1, c'est encore plus ce duel avec Ayrton Senna dans les rues de Phoenix aux États-Unis. Moi, personnellement, à ce moment-là, j'ai 14 ans, je suis devant ma télé, je suis en fusion avec mon père, on est debout hein, dans le salon, et il y a des analogies. Vous êtes d'origine italienne, je m'appelle Della Posta, donc on s'identifie un petit peu. Je peux vous dire que le lendemain du Grand Prix de Phoenix, j'avais des posters, genre allez-y dans ma chambre. Se battre avec Ayrton Senna, dépasser Ayrton Senna quand on est au volant d'une Tyrrell, et qu'Ayrton Senna quand même est au volant de la McLaren, là à ce moment-là, on doit être au ciel.
Et puis surtout, après ce Grand Prix à Phoenix, il y a Ken Tyrrell qui vous dit... Senna te craint parce que vous êtes impétueux, vous êtes imprévisible, vous êtes le factor X de chaque Grand Prix et Senna ne sait pas jusqu'où est-ce que vous allez aller. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Comment est-ce que ça a été cette hype fantastique après ce Grand Prix? Pour résumer, à Phoenix, Ayrton Senna, vous êtes en tête, Ayrton Senna vous double pour prendre la tête et un virage plus tard, vous prenez la tête. Donc, vous me surprenez. Voilà.
Faut regarder à tous les jeunes qui n'ont pas l'âge d'avoir vu ces images. Il faut aller sur les moteurs de recherche. Regardez. Voilà. Vous tapez. Allez-y. Senna Phoenix 1990. Vous allez retomber sur cette bagarre qui est monumentale.
Fantastique.
Dites-nous maintenant comment ça s'est passé. Comment vous l'avez vécu?
Alors, bon, déjà, je pars de Londres pour Phoenix. On avait une Tyrrell avec des pneus.
Pirelli?
Non. Des Goodyear. Et pendant le voyage, Ken fait un accord avec Pirelli.
Ah,
donc, en fait, nous, on est, nous, pilotes, c'est-à-dire Nakajima et moi, on n'est absolument pas au courant. Quand on arrive au circuit,
c'est fou.
On voit des Pirelli sur la voiture, on dit, mais c'est quoi ces trucs-là? Non, mais parce que Ken, parce que bon, financièrement, c'était vraiment pour le team important d'avoir Pirelli. Donc, il signe avec Pirelli. Mais on n'avait jamais essayé les pneus, rien, quoi. Et en fait, à l'époque, il y avait aussi les pneus de qualif. Hein. Ils avaient deux avantages. Ils avaient un pneu de folie quand il n'y avait pas de grip. Donc, en qualif, moi, j'avais une arme vraiment pour bien me qualifier. Mais surtout, ils avaient un pneu qui faisait tout le Grand Prix. C'est-à-dire, moi, je partais, je ne m'arrêtais jamais. Alors que Ayrton était obligé de s'arrêter au moins une fois pour changer ses pneus. Quoi. Donc, qualif, je me qualifie P5, je crois. Je fais un top départ, je me trouve premier au premier virage. Et là, j'ai une voiture quand même qui est 30 kg moins lourde que les autres parce que j'ai un V8. Eux, avec les V10 et les V12, ils partaient avec plus d'essence. Donc, du coup, les premiers tours, j'étais plus vite. Quoi. Et là, je prends vraiment un bon gap. Je pense que c'est jusqu'au 30e tour. Et là, bon, il brûle l'essence. Ayrton remonte. Il voit qu'il a un peu de mal. Il rentre au stand. Il change les pneus. Il arrive en pneu neuf. Je sais que je vais pas, ça ne va pas durer. Mais alors là, je me dis, bon, allez, je vais m'amuser. Donc, je m'appliquais comme un fou. Je freinais tard. Je zigzaguais pas rien. Et lui, quand il me pique au freinage, il va un peu long. Et donc, du coup, je me suis dit, mais je peux y aller là encore. Donc, hop, je l'ai redoublé. Et c'était génial parce que le tour d'après, j'ai refait la même chose. Mais là, ce coup-ci, il s'est mis bien au milieu pour pas que je puisse le faire. Et, je me suis régalé. Franchement, c'est, pour moi, ça avait été un Grand Prix qui m'avait fait plaisir parce que Senna, c'est un magicien, quoi.
Et ce podium avec Ayrton Senna et la suite, la relation avec Ayrton Senna, je disais en vous présentant, vous avez été le contemporain d'Ayrton Senna de Michael Schumacher. La relation avec Ayrton Senna, ça doit être un petit peu particulier. Vous disiez que c'était un magicien, un personnage impressionnant.
Alors, personnage impressionnant, moi j'avais respect pour lui sans fin, mais j'avais deux problèmes avec lui. J'étais ami de Nelson Piquet.
Son grand rival.
Voilà, et son ennemi. Et d'Alain Prost. Donc lui, quand il me voyait, il voyait le pote de ses deux ennemis. Donc il essayait de me parler et tout, mais enfin, quand on se croisait, mais il avait toujours une retenue. Et je me rappelle un jour, mais alors je voulais me jeter à l'eau tellement que je rigolais. À Montréal, il y a le pont en bois, enfin, on garde les voitures sur une digue. On traverse un bassin olympique, un bassin où il y avait eu les Jeux là, d'Aviron, sur un pont flottant, et on arrive dans le paddock F1. Moi, je garde ma voiture, la voiture à côté, c'est Ayrton. Donc, on sort, et puis on va sur ce ponton, et on marche, et on est à côté, alors on commence à se parler. Ça va, oui, ça va, t'es arrivé quand ? Les trucs banals, quoi. Et quand on arrive au bout, donc on discute 3-4 minutes. Quand on arrive au bout, je lui dis, allez, au revoir Nelson. il me regarde et il éclate de rire. Mais moi, je n'ai pas fait exprès. En fait, c'est que c'était un lapsus dans le sens où je me suis dit, si Nelson il me voit ou je passe à Nelson dans ma tête. Et en partant, je dis, bon, allez, ciao Nelson. Et là, il éclate de rire. Il dit, mais non, mais il n'y a pas de problème. C'est des petites anecdotes que j'ai eues comme ça les 4 années que j'ai couru assez régulièrement parce que c'était quelqu'un qui était très isolé mais qui était un gars fantastique.
On rappelle un peu des éléments de votre palmarès, une victoire emblématique, Canada 95, le lieu où Gilles Villeneuve a remporté son premier Grand Prix en 78 avec le numéro 27, un symbole extraordinaire. D'ailleurs, vous jetez votre casque à la foule avec la radio et tout le bazar dedans à 50 000 francs, vous dites à l'époque. Mais 32 podiums, ça c'est quelque chose qui témoigne de votre présence aux avant-postes. Mais vous nous avez fait mal au cœur aussi.
Je pense que lui aussi, il a eu mal au cœur.
Oui, bien sûr.
Le nombre d'abandons techniques que vous avez
eu. Surtout des abandons en tête qui nous ont déchirés. Je cite juste, hein, il y en a 4 qui ressortent. Belgique 91, c'est le moteur. À 9 tours après 9 tours, vous avez...
un connaisseur, vous avez, je vous ai dit. Hein.
11 secondes d'avance. Enfin, c'est plié, c'est bon, il y a une soupape qui casse. En Belgique, c'est la suspension 4 ans plus tard. 95, c'est Monza. Un roulement de roue, c'est inimaginable. Bon, voilà. Et puis Monaco 96, vous faites 60 tours en tête, il y a une barre de torsion. On se dit, mais comment est-ce qu'on se remet de ça? Et lequel vous a fait le plus mal, je dirais intérieurement? Peut-être Monza 95, je ne sais pas, c'est une victoire que tout un peuple attendait.
Mais même 94, parce que c'est les 2 années. En 94, je fais la pole, je pars, je fais mon pit stop. Quand je mets la première, il y a tout qui explose. Honnêtement, ils m'ont tous fait très très mal.
On vous sent ému là d'ailleurs.
Oui, mais parce que ils m'ont tous fait très mal parce que c'était des années évidemment de grandes passions, de grandes envies de gagner. Quand vous êtes en tête d'un Grand Prix, quand vous conduisez une Ferrari, il y a plein de choses qui font que vous avez envie d'arriver jusqu'au bout, quoi. Et quand vous avez fait les premières parties, parce que c'est un Grand Prix, c'est comme, je dirais maintenant pour les jeunes, c'est comme Netflix, saison 1, 2, 3 et 4. C'est des épisodes. Vous avez le tour de chauffe, parce que le tour de chauffe, c'est quelque chose d'important pour un Grand Prix. Il faut préparer plein de choses pour faire un bon départ. Le départ, le début de course, parce que vous avez des voitures qui sont lourdes. Donc, il faut savoir gérer le poids de l'essence, les freins, tout ça. Et puis après, bon, les pit stops. Donc, normalement, c'était un. Nous, on en faisait en général un, pas plus. Ou avant qu'il y ait les speed limits, on en faisait deux. Mais une fois qu'on a fini ça, il faut ramener la voiture à la maison. Et c'est là où vous avez fait, vous n'avez plus rien à faire. J'ai toujours abandonné, pratiquement, quand il n'y avait plus rien à faire. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal, parce que les quelques tours que vous avez à finir, vous vous appliquez, vous dites c'est bon, vous écoutez le moteur, tout est OK, et voilà, un truc est patatrac. Donc, j'avais chaque fois un peu de mal à m'en remettre, mais quand je vous dis un peu de mal, c'est deux ou trois jours, après je repartais de plus belle.
On essaye de savoir un petit peu aussi quel est éventuellement votre meilleur souvenir. Est-ce que c'est forcément la victoire à Montréal, ou est-ce qu'il y a quelque chose, une sensation encore plus forte que vous avez vécue dans votre Formule 1, dans votre carrière de Formule 1, plus fort que cette victoire?
Alors bon, moi je suis un vrai privilégié, parce que quand j'ai fait mon premier Grand Prix, le mardi, je roulais à Monza avec ma Formule 3000. Je savais absolument pas que j'allais faire ma première course. Donc, j'ai eu une vie de surprise et de plaisir. Donc, c'est évident que quand le soir, je rentrais à la maison avec la coupe de la victoire, enfin, à la maison, c'était à Montréal, je suis rentré dans le restaurant où tout le monde s'est levé et applaudi. C'est des souvenirs inoubliables. Mais qu'est-ce que je dois dire j'avais fait la pole à Monza avec la Ferrari, les premiers tours à Furano où sur les grillages il y avait tous les fans qui étaient accrochés. C'est que des moments de vie qui sont indélébiles, donc fantastiques. Donc d'en choisir un en particulier, ça serait pas sympa pour ma carrière.
D'accord. Eh ben on va pas vous y obliger, hein, ça c'est clair. Un petit mot, vous nous avez parlé de votre papa. C'est une histoire de famille, hein, dans la famille Alesi, puisqu'il y a le fiston, hein, Giuliano, qui est allé jusqu'en Formule 2, qui s'est maintenant dirigé vers le Japon, puisqu'il a la double nationalité, qui roule au Japon en Formule 1 Nippon. Comment ça se passe pour lui? Quel regard vous avez sur son évolution?
Alors, écoutez, honnêtement, j'ai un autre garçon qui ne fait pas du tout de course automobile, et c'est sympa aussi d'avoir au moins un qui suive la passion de son père. Mais je dirais que c'est très compliqué aujourd'hui, pas seulement d'être papa de pilote, mais d'être jeune et de passer, disons, entre toutes ces catégories pour réussir à monter. Donc aujourd'hui, j'aurais préféré l'avoir plus proche de moi, c'est-à-dire en Europe, mais le Japon a été un vrai bol d'oxygène, parce que c'est encore des endroits où vous pouvez courir avec un intéressement à la carrière, c'est-à-dire que vous avez des constructeurs qui aident les jeunes. Ici, nous, en Europe, ils aident les jeunes, mais c'est du 1 pour 15. Donc, quand vous devez trouver des budgets, puisque ici, tout est très cher et payant, quand vous trouvez les budgets, même si vous avez Ferrari, Renault ou Red Bull qui vous aident un peu, il faut quand même amener une autre partie du budget. Donc, et c'est hyper difficile.
Ouais, on parle de beaucoup d'argent, hein, pour les familles de jeunes pilotes.
On va quand même préciser que les recruteurs savent exactement ce qui se passe au Japon. On pense à des carrières comme Benoît Trélulier, qui s'était exilé au Japon, oui, et qui a été engagé par Audi, qui a fait une carrière absolument magnifique en endurance. Est-ce que vous ne le voyez pas aussi comme une passerelle, finalement? Alors, je parle...
Ah, surtout qu'il y a Ferrari en endurance,
voilà,
maintenant.
C'est que, voilà, vous avez aussi couru en IMSA, vous avez couru pour AF Corse, qui représente maintenant Ferrari en endurance, en hypercar, qui fait rouler des pilotes qui sont issus du GT. Il y a des passerelles possibles. Est-ce que vous vous dites que
un Giuliano dans une hypercar Ferrari,
voilà, tout à fait. Est-ce que ça c'est possible? Et puis quel regard vous portez aussi sur ce retour 50 ans après de Ferrari sur la grande scène de l'endurance? Parce que faut le rappeler, dans les années 70, la catégorie star c'était l'endurance au début des années 70.
Alors bon, mon fils il est chez Toyota et honnêtement il adore, donc ça se passe super bien. Sa mère est japonaise, donc il parle japonais, comme moi je suis en train de parler en français. Donc il s'est super bien intégré. Il fait donc du Super Formula et du GT 500. Bon, il faut savoir que la GT 500, pneus libres, donc vous avez.
C'est
un truc de fou. Ils sont deux pilotes, donc les voitures elles sont libérées. À Fuji, l'année dernière, l'an passé, ils ont roulé 3 secondes plus vite que la LMP1. Parce que comme les LMP1, ils ont le BOP.
Oui, on les ralentit volontairement.
Exactement. Donc, du coup, ils ont des voitures, c'est des missiles. Donc, c'est sûr qu'il est dans, il a 22 ans, il est dans la bonne move d'apprentissage. Ferrari, bon. En plus, c'est que des amis à moi, Coletta, Amato Ferrari, tout ça, qui gère le team. C'est sûr que ça me ferait plaisir de le revoir ici. Mais pour le moment. Je suis content qu'il soit là-bas et on respecte beaucoup justement sa position au Japon. Voilà, après, bon, Ferrari en LMP, enfin pas en LMP1, en
hypercar,
c'est génial, quoi, c'est fabuleux. Là, le Mans, je vais venir pour le départ. Je m'ennuie vraiment de voir comment ça se déroule, quoi.
Écoutez, je profite de ce podcast pour vous proposer de nous rejoindre. On y sera aussi, puisque nous, ça sera sur Eurosport. Et j'aurai l'immense plaisir de commenter, a priori, aussi le départ des 24 heures du Mans. Je vous invite dans la cabine d'Eurosport pour venir partager ces instants. On va vous remercier, Jean. C'était un moment exceptionnel. On aurait des questions, on pourrait tenir comme ça pendant 18 heures non-stop. On pourrait faire les 24 heures du Mans avec Jean. Allez-y, il n'y aurait pas de problème. On n'aurait pas de problème à trouver des questions.
C'est moi qui l'ai fait avec vous parce que je passe du 1 au 2 chaque fois que je zappe. Moi, quand il y a les 24 heures, je suis dans mon canapé et je rock. Je me régale.
Eh ben écoutez, voilà, on est passé d'une époque, vous disiez la vie est formidable, on est passé d'une époque où j'avais des posters de Jean Alési dans ma chambre, où finalement j'apprends aujourd'hui que Jean m'écoute quand il y a les 24 heures du Mans. Voilà, la boucle est bouclée, on est ravis. Alors si, mais franchement, je renouvelle l'invitation, venez nous voir en cabine, et là vraiment je serai le plus heureux des hommes. On vous souhaite une bonne suite de journée. On a un petit peu débordé de la demi-heure que vous deviez nous accorder. Merci beaucoup Jean, on a été ravis de vous avoir dans les fous du volant.
Merci beaucoup et puis j'ai adoré d'être avec des vrais pros.
C'est gentil. C'était avec, réciproque.
Avec une vraie comment je pourrais dire, recherche sur d'où on arrive en fait.
Exactement. Merci à vous.
Merci beaucoup merci. Jean. Je pourrais dire merci Giovanni. Parce que Jean, son CV,
son état civil, tu veux
son
dire.
État civil, son, le véritable prénom c'est Giovanni et on aurait pu avoir Giovanni Alési sur une Ferrari.
Oui.
Ça aurait été aussi extraordinaire, mais bon.
On aura peut-être Giuliano.
Ça va. Peut-être.
À bientôt. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Bon, voilà, ce qu'il y a de bien avec Jean, c'est comme il est généreux, il vous accorde 30 minutes, on a fait un peu plus que 40, mais
il honnêtement, voilà.
Et on aurait pu rester une heure et demie encore avec Jean, c'est incroyable, ces témoignages, ces anecdotes-là avec Jean Alési, qu'il appelle Nelson, alors ça c'est quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Évidemment, il n'y a toujours pas de Grand Prix, mais... Là, quand on patiente avec Jean Alési, c'est quand même une attente de luxe. Que ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles aussi, pour signifier si vous avez été particulièrement heureux d'entendre Jean Alési. Et puis à vous abonner. Et de cette manière-là, dès qu'on publiera l'un des prochains numéros, vous le recevrez directement sur votre smartphone. Stéphane, je crois qu'on a tout dit, on a vécu un joli moment dans les fous du volant aujourd'hui. On raccroche Et on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là,
on coupe le contact.